soit loué et soit béni notre Seigneur et notre Dieu. Tu bénis ces instants. Amen.
Amen.
Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons prier. Et au verset premier, l'évangéliste, c'est le seul miracle, en dehors bien sûr de la résurrection de Jésus, ou même de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et rendit grâce et distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Amen. » Donc, un grand miracle. Un grand miracle aussi, de grande importance par les enseignements qu'il contient. Et il est bon que nous puissions voir chacun des versets de ce texte, l'un après l'autre. Et déjà, il nous est dit au verset premier que Jésus s'en alla. Jésus, à ce moment-là, s'éloigne de Jérusalem, dont il est chassé par l'opposition des Juifs qui ne voulaient pas croire en lui. Ce qu'on voit dans le contexte précédent, chapitre précédent. Il avait pourtant accompli au milieu d'eux de nombreux miracles. Et un des plus significatifs qui nous est relaté dans le chapitre 5, au début du chapitre précédent, eh bien, c'était la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. Mais voilà, le problème, c'est que ces gens-là n'avaient pas voulu croire. Ils n'avaient pas voulu croire à ces différents témoignages qui attestaient qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que dans la suite du chapitre, Jésus parle et insiste face à ses contradicteurs sur ces différents témoignages. Par exemple, chapitre 5, versets 30 à 32, il parle de son propre témoignage. Versets 33 à 35, il parle du témoignage de Jean-Baptiste. Et puis ensuite, il parle du témoignage de ses propres œuvres. Donc, au verset 36. Et puis, il parle du témoignage du Père. Versets 37 et 38. Et enfin, il parle du témoignage des Écritures. Versets 39 à 47, le témoignage donc de Moïse. Vous savez, quand on résiste au témoignage que le Seigneur donne, qu'est-ce que le Seigneur fait si on n'insiste pas? Le Seigneur s'éloigne, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. L'atmosphère d'incrédulité, de contestation de la parole de Dieu, chasse le Seigneur, chasse Jésus au loin, quelque part. La foi précédente, que Jésus était reparti déçu de Jérusalem, il nous a expliqué qu'il était allé jusqu'en Galilée. Et cette fois-ci, il sera plus loin encore, de l'autre côté de la mer de Galilée. Plus on résiste, plus Jésus s'éloigne. Et il faut savoir cela. Et cependant, le verset 2 nous dit qu'une grande foule suivait Jésus à cause des miracles qu'elle le voyait accomplir. Et voyez la bonté et la grâce de notre Seigneur. En s'éloignant de Jérusalem, il continue à accomplir des miracles pour ceux qui le suivent. Et tous ceux qui s'approchent de lui, tous ceux qu'on lui amène, bénéficient de sa grâce, de ses délivrances, de sa bénédiction et de ses guérisons. Amen. Et Jésus est toujours le même. Et il opère toujours ces mêmes choses aujourd'hui. Combien de fois on est arrivé à des fins de mission, on pouvait se réjouir de voir des œuvres de guérison opérées par le Seigneur. Et combien c'est réjouissant lorsqu'on entend les témoignages tout à l'heure de ce que Dieu a pu faire la vie des uns des autres par sa puissance guérissante. Il est toujours le même, béni soit son nom. Alléluia. Amen. Mais il nous faut nous confier en lui, il nous faut nous approcher de lui, et nous pourrons nous aussi être secourus, délivrés, guéris et attirés à lui. Vous voyez que cette foule avait tout de même des obstacles à surmonter pour aller derrière lui. Ça ne s'est pas fait tout seul. Hein? Il nous a expliqué que d'abord ils ont quitté Jérusalem alors que c'était la période de la Pâque, comme c'est bien précisé au verset 4. Donc, la plus grande fête des Juifs était proche. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Est-ce qu'ils allaient rester là pour suivre ces cérémonies religieuses, qui étaient toujours très impressionnantes et attiraient beaucoup de monde? Ou bien est-ce qu'ils allaient suivre Jésus? Voyez-vous, ils avaient un choix à faire à ce moment-là. Et ensuite, quand ils avaient fait le choix, ce n'était pas fini. Après, ben, il fallait aller jusqu'à la mer de Galilée. Et Jésus ne paraissait pas s'occuper d'eux plus que ça. Hein, je veux dire, bon, à part le fait qu'il agissait pour ceux qui s'approchaient de lui, autrement il continuait son chemin. Il continuait à marcher, il continuait à aller de l'avant. Et lorsqu'il est arrivé au bord de la mer de Galilée, il nous a expliqué qu'il est monté sur la barque, dans la barque donc, avec ses disciples, et qu'ils ont traversé. Et les autres, ils ne leur ont pas dit où ils allaient. Hein, à eux de se débrouiller pour suivre. À eux de juger, d'après la direction approximative que prenait la barque, de l'endroit où cette barque allait atterrir de l'autre côté. Hein? Donc, à eux de faire le tour à pied pour rejoindre le Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus ne va pas nous forcer à le suivre. Hein? Jésus ne va pas être là pour nous tirer, pour nous pousser, pour non. C'est à nous de savoir si nous voulons nous approcher de Dieu. L'Écriture dit clairement, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Hein? Et comme Jésus, voyez-le, après, Jésus est ému quand il les voit arriver harassés, languissants, de l'autre côté, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et là, il est prêt à leur manifester son amour et ses bénédictions. Et là, il va leur enseigner beaucoup de choses. Et il va agir, il va les secourir, les soutenir. Soutenir. Amen. Et remarquez quand même, d'après le verset 3, que Jésus fait une différence entre la foule et les disciples qui le suivent. Donc les disciples, eux, grimpent dans la barque avec lui. Eux montent sur la montagne avec lui. Eux sont enseignés par lui de choses que les autres n'entendront pas. Et pourquoi ça? Et parce qu'ils avaient une foi plus grande et de meilleure qualité que celle de la foule en général, que celle de la moyenne de cette foule. Et à quoi reconnaissons-nous cela, qu'ils avaient une foi de meilleure qualité? Eh bien, au fait qu'ils suivaient Jésus constamment, alors que la foule, ils venaient suivre Jésus seulement à l'occasion. Et puis, ses disciples, ils avaient tout laissé pour le suivre. Puisque la foule, eh bien, ils le faisaient dans leur temps libre, peut-être, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, après leurs autres priorités, ça certainement, après d'autres priorités. Et bien, les disciples, eux, aimaient le Seigneur Jésus. Puisque la foule, elle aimait spécialement les miracles. Hein, donc voyant les miracles qu'il faisait, il dit. Hein. Les disciples voulaient mettre en pratique la parole du Seigneur. Puisque la foule, est-il marqué, l'écoutait avec plaisir. Mais écouter avec plaisir, ça ne veut pas dire forcément obéir. Hein. Les gens, ils aiment bien écouter, oui. Les témoignages, ils aiment bien écouter la prédication. Ils aiment bien écouter les chants. Mais est-ce qu'ils vont obéir? Est-ce qu'ils vont mettre la parole de Dieu en pratique? Et nous voyons que ces disciples, cinquième différence, hein, c'est qu'ils acceptaient toute la parole du Seigneur, même s'ils ne comprenaient pas certaines choses sur le coup. Ils avaient cette humilité et cette confiance en même temps. Vous savez, il y a ceux qui disent « moi je croirai seulement quand j'aurai tout compris », mais ils ne croiront jamais. Hein, parce qu'ils mettent, je dirais, leur raisonnement, du moins l'évaluation qu'ils ont de leur raisonnement au-dessus de la parole de Dieu. Et ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Parce que la foule, elle disait, hein, il y en a beaucoup qui ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Hein, voilà. Et ce qui est nécessaire, frères et sœurs, mes amis, pour être vraiment béni de Dieu, c'est d'être des disciples et des serviteurs et des servantes du Seigneur. Non pas des adhérents à une religion ou à un mouvement, non pas seulement des auditeurs, même attentifs, dans une réunion. Non pas seulement de ceux qui viennent pour être guéris, pour être bénis, pour être exaucés, même si bien sûr, ben, ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir ce désir-là, au contraire. Non pas seulement pour recevoir, mais pour donner, et surtout pour se donner. Surtout pour se donner. Il y a dans le Seigneur, vous savez, des sources supérieures et des sources inférieures. Et je dirais que tous ceux qui viennent au Seigneur peuvent recevoir les sources d'en bas. Mais les plus élevées, elles sont pour ceux qui donnent, ceux qui se donnent surtout entièrement à Dieu. Amen.
Amen.
Alors nous voici revenus à notre verset 4. Nous avons ce renseignement supplémentaire qui arrive, paraît arriver un peu là comme un cheveu sur la soupe, si vous m'exprimez ainsi. Cette mention de la Pâque, qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, malgré tout, cette mention-là a son importance, parce que si les miracles de Jésus sont toujours donnés en réponse à la foi, et ce miracle-là ne fait pas exception, bien ceux qui sont décrits dans l'évangile de Jean ont une signification spirituelle supplémentaire. Vous avez 9 miracles qui sont rappelés, qui sont décrits dans l'évangile de Jean, en détail. Hein, donc, et ce n'est pas un hasard si ce miracle-là, cette multiplication des pains, est suivi dans le même chapitre par le discours que Jésus fait sur le pain de vie. Hein, donc voyons ça. Vous savez, Jésus n'est pas comme les hommes de ce monde, trop souvent les discoureurs, les producteurs de belles paroles qui peuvent souvent ne rien faire d'autre que ces belles paroles et qui n'arrivent pas à tenir leurs grandes promesses. Mais ce que lui, au contraire, nous voyons qu'il fait un miracle, il nourrit la foule avec des pains et ensuite il proclame qu'il est le pain de vie. Hein. Les actes, les preuves d'abord et ensuite, solidement appuyé sur les faits, le discours. Le discours. Et dans ce discours, du verset 25, verset 26, pardon, jusqu'au verset 65, Jésus proclame par cette foi qu'il est le pain de vie, qu'il est le pain du ciel. Verset 32, verset 33, 35, 48, 50, 51 et puis 58. Et pourquoi Jésus va-t-il parler avec une telle insistance? Pour affirmer qu'il est Dieu et qu'il apporte aux âmes quelque chose qui est d'une importance infinie. Nos âmes ne peuvent être véritablement nourries et satisfaites que par le pain de vie. Que par le pain de vie qui est descendu du ciel. Combien il est important, ce pain-là. Et combien les hommes, plus ou moins consciemment, sont affamés de ce pain de vie-là. Alors certains qui prennent des ersatz, qui essayent de prendre d'autres choses, de se nourrir avec, nourrir les âmes avec d'autres choses, mais ça ne satisfait pas. Hein. Vous avez des carences spirituelles. Et dans la vie, suite à c'est tant qu'on n'a pas le vrai pain de vie, on a toujours ces manques-là. Hein. C'est le Sadhu Sundar Singh, donc, qui en Inde, distribuait des évangiles dans un train. Voilà qu'il a donné un évangile à un homme qui était incrédule et qui, de colère, l'a déchiré en morceaux et l'a jeté par la fenêtre. Mais dehors, marchant le long de la voie, il y avait un homme qui cherchait la vérité, qui cherchait anxieusement la vérité, n'étant pas satisfait de sa religion, qui pourtant présentait toutes sortes d'apparences surprenantes parfois. Donc, et il voit un petit bout de papier, et il le ramasse, et il lit sur ce bout de papier le pain de vie. Le pain de vie. Et il ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors il a demandé autour de lui, à ses amis, et finalement il y a quelqu'un qui lui a dit, écoute, je peux dire ce que c'est. Ça vient du livre des chrétiens. Mais il ne faut pas que tu le lises, parce que sinon tu vas être impur. D'après sa religion. Hein. Voilà, c'était comme ça. Tu vas être impur, tu vas être souillé. C'est comme il a réfléchi au monde, il s'est dit, mais je veux lire un livre qui contient une aussi belle expression. Voilà. Donc, il a acheté un Nouveau Testament, et on lui a montré ces paroles du Seigneur, « Je suis le pain de vie hein, », lorsqu'il dit cela. Et il a étudié l'Évangile, et la lumière divine a pénétré en son cœur, il est venu à la connaissance de Christ, il est devenu prédicateur de l'Évangile dans les provinces centrales de l'Inde, où il a servi le Seigneur pendant bien des années. Jésus donc a voulu montrer qu'il est le pain de vie. Et en même temps, comme c'était à l'époque de la Pâque, il a voulu lui aussi réaliser quelque part la fête de la Pâque à sa manière. Hein, donc, et c'est là que nous en arrivons à ce fameux miracle, dont les versets 5 à 9 nous décrivent les préparatifs. Hein, préparatifs du miracle. Jésus, est-il marqué, il savait très bien ce qu'il allait faire. Mais il a voulu tester la foi des disciples et il s'est adressé à Philippe, qui d'ailleurs est mentionné 4 fois dans l'évangile de Jean. Philippe, c'était un homme simple. Hein, donc, il avait parfois bien du mal à comprendre les choses spirituelles. Et Jésus avait à cœur de le faire grandir dans la foi. Et c'est pourquoi il lui pose cette question. Et combien nous aussi nous avons souvent du mal à comprendre le chemin par lequel le Seigneur veut nous faire passer, les vérités qu'il désire nous enseigner. Alors parfois, le Seigneur nous met dans des situations sans issue, comme là, hein, il nous demande comment faire. Alors nous n'avons pas de réponse. Et nous comptons en nos moyens ce qu'on a et même ce qu'on n'a pas. Et c'est encore insuffisant, mais rassurons-nous, frères et sœurs, le Seigneur sait comment il va faire. Alléluia. Voilà qui est certain. Et André, donc c'était un esprit qui était plus pratique, peut-être. Lui, il avait réussi à trouver quelques pains et deux poissons. Mais c'était tellement insuffisant. Cinq pains, deux poissons. Cinq, c'est le nombre de l'insuffisance. Lorsque vous regardez au chapitre 4 de l'évangile de Jean, vous avez les cinq maris successifs de la femme samaritaine. Ah oui, c'était insuffisant. Elle était toujours insatisfaite et malheureuse. Hein. Elle pensait en trouver le bonheur enfin avec le cinquième. Ben non, et puis le sixième, et puis le sixième, pas son mari, encore pas non plus. Au chapitre suivant, chapitre 5, cinq portiques pleins de malades pour la piscine de Bethesda. Là encore, le nombre de l'insuffisance. Et là encore, chapitre 6, 5 pains d'orge pour des milliers de personnes, mais c'est insuffisant. Et avec cette insuffisante, cependant, Jésus va produire le miracle. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, nous venons, chacune et chacun d'entre nous, et nous savons bien combien nous sommes insuffisants, combien nos capacités sont insuffisantes, combien, bien souvent, notre foi est insuffisante. Mais si nous venons vraiment au Seigneur, eh bien, à partir de là, il peut faire quelque chose, il peut agir. Amen.
Amen. Amen.
Et voici donc, du verset 10 à 13, l'opération, la réalisation du miracle. Nous dit qu'il y avait environ 5000 hommes, donc sans compter les femmes et les enfants, hein, vous imaginez. Donc, et ceux-ci ont été nourris avec ce pain, qui était un pain matériel malgré tout. Hein. Et combien ce sera merveilleux lorsque, plus merveilleux encore, quand il y aura, par exemple, les 3000 convertis à la Pentecôte, qui sont mentionnés au début du livre des Actes, et qui seront, eux, nourris du vrai pain du ciel, produit par eh bien, cette vie puissante de résurrection qui est en Jésus-Christ, et par ce Saint-Esprit qui va à ce moment-là accomplir son œuvre. Il nous dit dans verset 11 que Jésus, après avoir pris les pains, rendit grâce. Et c'est ce même mot qui est utilisé dans les autres évangiles pour l'institution de la Sainte Cène. L'institution du repas du Seigneur, le pain et le vin, donc c'est le verbe grec eucharistéo, donc, et ça nous montre bien que Jésus voulait par ce miracle montrer qu'il était le vrai pain de vie, qu'il était le vrai pain du ciel. Et le verset 12, nous remarquons là deux choses dans ce verset. D'abord, que rien ne se perd. Vous savez, Jésus ne fait pas de miracle inutile. Jésus ne va pas faire une multiplication des pains pour nous si nous avons envie de jeter le pain qui est un petit peu trop assis parce que on va faire le pain frais. Ça ne va pas demander au Seigneur de faire une multiplication des pains pour nous, il ne la fera pas. Hein. Donc Jésus ne fait pas de miracle inutile. Et une autre chose qu'on voit, c'est que Jésus ne fait pas de gaspillage. Jésus n'aime pas le gaspillage non plus. Hein. 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Voilà. Demandez aux disciples de ramasser les morceaux. Et ces 12 paniers bien, sont là aussi, bien sûr, pour nous indiquer la volonté du Seigneur de récompenser, de donner un bon salaire à chacun de ces 12 disciples qui avaient travaillé pour lui. Et combien il est vrai, combien il est vrai, le Seigneur est celui qui donne un bon salaire, celui qui récompense, celui qui se consacre à lui, celui qui est non seulement notre Père, mais celui qui est le meilleur des employeurs, si on peut parler comme ça. En tout cas, nous voyons cela. Et en conclusion, eh bien, vous avez cette allusion à Deutéronome 18 au verset 15, dont il est marqué, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Donc, les gens disent ça, à qui est-ce qu'ils pensent? Et ils pensent à cette annonce du prophète qui venait et qu'ils attendaient, les gens attendaient. Hein, donc, et Moïse avait dit dans Deutéronome 18 au verset 15, il avait prophétisé, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Alléluia. Et pour tous ceux qui l'écoutent, pour tous ceux qui reçoivent cette parole, et pour tout cela, il y a l'accomplissement des promesses et des pleines bénédictions. Amen. Amen. Alors en conclusion, eh bien voilà, nous avons simplement à rappeler petite série d'exhortations, eh bien, ne résistons pas au témoignage que le Seigneur donne, que le Seigneur permet aux signes et aux miracles. Ne discutons pas, ne contestons pas la parole de Dieu, sous peine de voir Jésus s'éloigner, sous peine de voir Jésus s'éloigner de plus en plus. Ensuite, ayons à cœur de nous approcher du Seigneur, de nous approcher du Seigneur, puisque tous ceux qui le font ont une bonne récompense et ont une bonne rétribution. Même s'il faut faire des efforts pour ça. Même si peut-être pendant un temps, on a l'impression que le Seigneur ne fait pas, ne prête peut-être pas trop attention, que le Seigneur ne nous considère pas, c'est faux, c'est pas vrai. Et le Seigneur, c'est le contraire. Le Seigneur, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour chercher ce dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Et c'est la plus réalité. Et puis, une autre chose encore, ne nous laissons pas décourager par les obstacles. Il peut y avoir toutes sortes d'obstacles. Les uns se trouvent en nous, bien souvent. C'est notre propre incrédulité. C'est notre propre manière de voir les choses qui n'est pas comme elles conviennent, mais elles conviennent d'être devant Dieu, parce que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Ça peut être des obstacles que l'adversaire veut mettre aussi sur notre chemin, et des obstacles tout simplement parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est très, très souvent compliqué et hostile aux choses de Dieu. Oui, c'est vrai, il y a différents obstacles. Mais si nous ne laissons pas décourager, le Seigneur est celui qui va nous accueillir, il va nous recevoir et il va agir. Et puis, ayons à cœur d'être de vrais disciples, pas simplement des croyants. Hein, non. Donc, ça veut dire quoi, être de vrais disciples? Je rappelle rapidement, ça veut dire avoir à cœur de le suivre de manière continuelle. L'aimer lui plus, dirais-je, que ses dons. Hein. Être intéressé par sa personne, plus que par les choses qu'il peut nous donner. Ne pas nous borner à écouter la parole de Dieu, même avec plaisir, mais ayons à cœur de la mettre en pratique, d'y obéir dans ce qu'elle nous demande de faire. Et accepter toute la parole, tout le message de Dieu, même ce qu'on ne comprend peut-être pas encore pour l'instant. Et quand on accepte, vous savez, Dieu va après nous faire comprendre les choses, va nous faire réaliser tout ce qui nous est bénéfique. Et puis, être de vrais disciples, pourquoi ? Parce qu'on ne vient pas seulement pour recevoir, mais on vient pour se donner. Et puis, on veut dépasser le besoin du pain matériel, même s'il ne faut pas le mépriser, évidemment. Mais ayons à cœur, avant toute chose, de nourrir du pain vivant qui est descendu du ciel, c'est-à-dire de l'œuvre de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'œuvre et la parole de notre Seigneur. Soyons attentifs aussi aux leçons que le Seigneur veut nous enseigner, aux choses qu'il veut nous faire comprendre, donc, pour nous faire avancer, progresser, comme il voulait faire avancer et progresser Philippe, et André aussi. Et soyons et restons toujours convaincus que le Seigneur sait ce qu'il va faire. Il sait comment il va faire. Vous et moi, nous ne voyons pas de solution. Nous ne voyons pas d'issue peut-être, mais faisons-lui pleinement confiance. Amen. Et nous verrons ce qu'il va faire. Alléluia. Hein? Et puis ne laissons pas perdre le temps. Ne laissons pas perdre les occasions. Ne laissons pas perdre ce que le Seigneur nous confie. Le Seigneur n'aime pas le gaspillage. Celui qui est fidèle dans les petites choses, les grandes choses lui seront confiées. Ça aussi, c'est un grand point. Et puis demeurons enfin convaincus que le Seigneur donnera à ceux qui le servent un bon salaire, une bonne récompense, et il sera gratifié puissamment le travail qu'ils feront pour son nom. Et encore, ce sera une occasion supplémentaire de lui rendre grâce avec reconnaissance. Amen. Amen. Alléluia. Nous remercions Seigneur Jésus de ce privilège que nous avons de pouvoir considérer les trésors qui sont contenus dans ta parole, Seigneur. Je rappelle des choses que tu as accomplies, qui nous sont données là pour notre bien, pour notre salut, pour qu'il soit pourvu à nos propres besoins, pour que nous puissions nous-mêmes être nourris de ce pain de vie qui produit en nous la vie véritable, qui produit en nous la vie d'en haut. Merci Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Combien nous savons que ce soir encore, eh bien, ton désir est de visiter les uns, de visiter les autres, Seigneur. que ce soit dans leur âme, que ce soit dans leur corps, que ce soit dans leur santé, que ce soit dans leurs besoins. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Merci Seigneur. Oh, béni sois-tu Jésus, parce que tu as encore des projets pour ceux qui se confient en toi. Tu as pour eux un avenir et de l'espérance. Merci Seigneur. Alléluia. Et s'il en est que justement ce soir on se désire de ne pas être simplement des croyants, de ne pas être simplement des auditeurs passifs, mais qui veulent véritablement marcher dans ce chemin de disciples, dans cette foi de disciples, et bien ils peuvent se lever encore à leur place. Et nous allons demander au Seigneur qu'il les soutienne, qu'il nous soutienne et qu'il nous fortifie pour que ces désirs, bien qu'ils puissent véritablement être fortifiés et qu'ils puissent accomplir l'œuvre du Seigneur et le glorifier. Merci Seigneur Jésus, nous voici devant toi Seigneur. Et nous voici avec ce désir qui est en nous, Seigneur, qui a été suscité par ton esprit, qui est suscité en nous par ta bonne parole. Nous te remercions, Jésus. Tu produis ainsi dans nos cœurs le vouloir et le faire. Tu agis encore dans nos vies, dans nos âmes, Seigneur. Et merci parce que tu fortifies ces bonnes résolutions, Seigneur. Tu soutiens chacun et chacune d'entre nous dans ses engagements. Parce que nous savons bien que nous ne sommes pas suffisants pour ces choses. Mais avec ton soutien, Seigneur, avec le soutien de ton esprit, avec tes promesses qui s'accomplissent, eh bien cette bonne œuvre, elle se fait, et elle va se faire, et elle va se poursuivre encore. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, parce que pour chacune et chacun d'entre nous, tu sais ce que tu vas faire. Alléluia. Merci notre Dieu d'amour. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons